Je voudrais continuer un peu la méditation que nous avions commencée samedi dernier sur cette parole de Jésus. Qu'il soit un, mon Père, comme vous et moi. Cette parole qui commande toute la prière sacerdotale de notre Seigneur. Et je pense que pour bien vivre cette semaine de l'unité dans laquelle nous nous trouvons, pour bien l'achever, et pas simplement pour la vivre, mais pour tâcher qu'elle change un peu notre mentalité, et que nous puissions davantage être d'abord dans l'Église catholique elle-même, des grands artisans de paix, des grands artisans d'unité. Et puis dans le monde, il faut que nous puissions bien comprendre cette parole de Jésus. Mais quelle est l'unité que Jésus veut réaliser? C'est une question toute simple, mais qui est très très importante. Vous voyez, et quand on prend de l'âge, après différents apostolats, on se rend compte que on peut toujours mieux comprendre cette parole de notre Seigneur. Et que très souvent, on a été dur parce que on n'a pas compris quelle était l'unité que Jésus voulait. Et remarquez, sur la terre, actuellement, il y a énormément d'hommes intelligents, de philosophes, de sociologues, qui veulent que le monde soit unifié et qui cherchent l'unité pour le monde. Mais ce n'est pas l'unité que Jésus désire. Il y a beaucoup de gens qui, des fois, sous prétexte qu'il faut qu'il y ait de l'ordre, hein, parce qu'ils croient au principe, hein, au fond, sont très autoritaires, sont très sous prétexte d'autorité. Hein. Ce n'est pas l'exemple que Jésus nous donne pendant sa vie. Ce n'est pas l'exemple que le pape actuel nous présente. Hein. Bon, et il est important pour nous de voir quelle est cette unité que Jésus pour mieux comprendre les chemins qui conduisent vers cette unité. Et pour que, d'une façon plus immédiate, tâchons d'abord de réaliser l'unité en chacun de nous, pour pouvoir devenir des éléments d'unité. Parce que chaque fois qu'on est un peu divisé avec soi-même, on amène la division. Chaque fois qu'on est plus unifié, on amène l'unité. Alors, c'est très très important de voir cette question, qu'est-ce que Jésus veut quand il va établir cette Église pour que ce soit une Église d'unité. Unité d'amour, certes, notre Seigneur, mais il faut bien comprendre ce que c'est qu'une unité d'amour. Vous voyez, l'intelligence, elle a un sens de l'unité. Unité d'ordre. Unité ramenant tout à des principes, à des catégories. On établit une belle hiérarchie en quelque sorte. On veut que tout soit bien. Il y a une logique. Qu'on s'efforce, une logique de la raison. L'artiste, le vrai, le véritable artiste, le grand artiste, il cherche toujours qu'il y ait l'unité. Mais on connaît ce mot de Dante, quand il disait que l'art, est tyrannique en quelque sorte. Quand Michel-Ange a sculpté la Pietà à Rome, j'avais été regardé, admiré. Cette piété est admirable, mais quand Michel-Ange l'a sculptée avec son ciseau dans la pierre, c'est pas par des méthodes de douceur. Au fond, l'artiste, il veut bien réaliser une unité, mais pas une unité par les voies de l'amour. Quand Jésus dit « Soyez doux et humbles », c'est bien pour nous montrer la voie de l'unité. Et je dirais que c'est tout à fait particulièrement nécessaire pour les catholiques. Au fond, chacun a son rôle particulier. Nous qui avons la grâce de reconnaître le Saint-Père, d'aimer le Saint-Père, d'aimer profondément Marie, d'aimer les sacrements. Quelle est l'attitude que nous devons avoir vis-à-vis de nos frères séparés ou de nos frères, au fond, qui n'ont pas tous les mêmes éléments que nous? C'est important de se rappeler ce que Jésus dit, « Soyez doux et humbles de cœur ». Il y a une humilité dont tous les derniers papes donnent l'exemple, et on sait que ce sont par des gestes d'humilité qu'ils ont le plus contribué à faire avancer l'œcuménisme. Nous savons que ça fait beaucoup plus d'effet que les grandes discussions des théologiens. Mais cette humilité, elle demande en même temps une très grande douceur. Et une douceur vis-à-vis des autres, mais pour être doux par rapport aux autres, il faut être doux par rapport à soi-même. D'où, vous voyez qu'il est important que nous tâchions de mieux comprendre qu'est-ce que Jésus veut quand il dit « Père, qu'il soit un comme vous et moi, nous sommes un ». Pour le dire tout de suite, je pense que en face de toute cette question de l'unité, vous voyez, comme de toute la question de la paix dans le monde, je crois qu'il y a deux écueils à éviter. Tout d'abord, il y a un certain écueil du scandale qu'il faut éviter. Et il ne faut pas qu'en face du monde tel qu'il est maintenant, en face de ces divisions, en face des divisions qu'il y a entre tous les chrétiens, hein, en face de toute l'histoire de l'Église, nous nous laissions arrêter, je dirais, par des aspects qui nous apparaissent négatifs. Parce que peut-être que notre conception de l'unité n'est pas celle de Jésus. Il y a un scandale qui fait de la peine à notre Seigneur. Et c'est le même scandale qu'il peut y avoir en face de la souffrance et en face de la mort. Au fond, les gens qui se laissent aller un petit peu, qui développent en eux un sentiment de dire « Mais la mort, c'est, je ne peux pas la comprendre. » Qui prennent l'attitude de révolter en face. C'est manquer une certaine foi dans une providence d'amour qui dirige tout. Il ne faut pas que nous soyons comme les fils de Zébédée avant leur conversion, avant qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, quand ils demandaient à notre Seigneur, mais fait tomber le feu du ciel sur ces gens qui ne veulent pas recevoir. Ils gardaient l'esprit de l'Ancien Testament. Et cela, c'est sûr qu'il y a un très grand danger. Et si on pensait, par exemple, qu'est-ce que notre Seigneur voulait? C'est avant tout une unité bien visible, extérieure, que l'Église soit belle. Vous voyez qu'elle soit comme un régiment qui marche au fond pas. Soit comme les grandes réunions, je ne sais pas si vous les avez, les anciens peut-être les ont vues à la télévision, mais les grandes réunions d'Hitler, quand il réunissait toute la jeunesse à Nuremberg, moi je me rappelle à Mussolini, les parades de en Italie de Mussolini, enfin, où au fond il y avait un ordre, enfin, au fond une unité qui était extrêmement belle. Mais est-ce que Jésus a voulu que son Église, en quelque sorte, triomphe? Est-ce que cette unité-là que Jésus a voulu? L'incarnation, on ne comprendrait rien à l'incarnation. Mais on comprendrait un petit peu que le scandale d'Hegel, disant, Jésus a eu une intuition extraordinaire de voir cette unité du monde, mais il n'a pas su prendre les moyens qu'il fallait. Et c'est nous maintenant qui devons achever l'œuvre de Jésus. Hein? Au fond, il était beaucoup trop doux. Hein? Il était beaucoup trop humble. Humble. Hein? Vous voyez, alors, je crois que c'est très important. Une fois qu'on a compris davantage, vous voyez, que l'unité que Jésus veut, c'est avant tout une unité dans l'Esprit Saint. On comprend que Jésus a fait une Église avant tout pour la liberté, l'unité dans l'Esprit Saint. Et que, par le fait même, sous certains aspects, cette Église peut être comme un signe de contradiction, presque de scandale. Parce que pour qu'une qu'il y ait deux ou trois personnes qui puissent réaliser cette unité, bon, Jésus préfère peut-être, hein, vous voyez, qu'il est dans une communauté pas mal de pagailles, hein, et qu'il la tolère. Vous voyez, m'a toujours beaucoup frappé que saint Thomas d'Aquin, hein, quand il parlait des, au fond, des démocraties, des dangers des démocraties, hein, au fond, au Moyen-Âge, enfin, il disait que le danger de la démocratie, c'était un peu l'anarchie. Hein? Mais que c'était toujours beaucoup moins dangereux que la dictature et la tyrannie, parce que ça laissait toujours la possibilité qu'il y ait encore, au fond, des petits îlots de bonté, de bien. Et qu'au regard du bon Dieu, c'est ce qui importait avant tout. Hein? Alors que quand, dans une tyrannie, ça supprimait complètement. Et je crois que ça évite beaucoup de scandales en nous. Hein, quand nous rendons compte que Jésus a voulu avant tout une unité d'amour. Et non pas une unité juridique. Ni même, je dirais, une unité, vous voyez, d'une théologie spéculative, comme si l'Église était... C'était, on confondait un peu évangélisation, hein, et enseignement doctrinal, hein, que certes Jésus veut que nous aimions la vérité, mais une vérité tout enveloppée par l'amour. Vous voyez ? Alors ça, c'est le premier danger. Le second danger, je dirais, c'est, et souvent ces deux dangers surtout quelquefois chez les mêmes personnes, bien souvent. L'autre danger, c'est de dire en face, il y a tellement de divisions, qu'est-ce qu'on peut faire, hein, vous voyez. Et puis alors, de regarder, de ne pas voir que nous pouvons tous, chaque jour, travailler de façon très profonde, très efficace, à ce qu'il y ait plus d'unité dans le monde, plus d'unité dans l'Église. Au moins par la prière, au moins par les sacrifices, au moins par la réconciliation continuelle. Trois moyens dont je vous parlais la semaine dernière. Vous voyez, alors c'est important de voir ces deux écueils, ben, au fond, qui nous menacent toujours. Vous voyez, actuellement plus que jamais. Vous voyez, au fond, en face des divisions qui existent, et puis en même temps, en face de l'impuissance dans laquelle on peut sentir. Bon. L'unité que Jésus veut, c'est un mystère. Et c'est essentiellement une unité qui doit être réalisée par le Saint-Esprit. C'est pour ça que cette grande retraite de l'unité, c'est la grande retraite à laquelle nous avons à prier le Saint-Esprit. Mais c'est très frappant de voir qu'actuellement, ceux qui travaillent le plus pour l'unité, en réalité, au fond, ce sont ceux qui sont les plus unis au bon Dieu, les plus mystiques. Même si, en fait, immédiatement, le bon Dieu ne leur demande pas, ne leur donne pas cette préoccupation particulière. Parce qu'il faut bien voir, n'est-ce pas, quand on parle de l'unité de l'Église, souvent on se passe au plan extension. Et l'unité qu'on voudrait un petit peu, vous voyez, l'unité comme l'universel. Hein, l'universel, c'est une unité, un concept universel. Hein, c'est une unité d'ordre qu'on conçoit souvent. voyez. Et on ne voit pas que quand dans le credo, nous parlons de l'Église, une est sainte, cette unité, cette sainteté de l'Église, elle vient tout de suite de ses liens avec le Saint-Esprit lui-même. Que c'est une Église qui est à la fois l'Église de Jésus et de l'Esprit-Saint. Alors, je voudrais tout d'abord vous montrer, parce que pour tâcher mieux comprendre cette prière de Jésus, et qu'en même temps, cette prière de Jésus, nous la vivions plus profondément, et la mettions continuellement en pratique. Il faut que nous commencions par tâcher de mieux contempler encore le mystère de la Sainte Trinité, voir quelle est l'unité qui existe dans la Sainte Trinité. Père, qu'il soit un, comme vous et moi, nous sommes un. Quelle est l'unité qui unit les trois personnes divines ? Il y a cette unité d'amour. Il faut bien comprendre ce que ça veut dire, cette unité d'amour. Vous voyez, le philosophe, les philosophes, la plupart du temps, quand, après avoir démontré l'existence de Dieu, ils se posent des questions en se disant, mais quel peut être le constitutif de Dieu, la nature de Dieu, qu'est-ce qu'elle est ? Ben, souvent, ils pensent que Dieu doit être ou l'intelligence, ou la pensée de la pensée, comme dira Aristote, ou bien que ce sera le bien infini. Mais aucun n'arrivait à découvrir ce mystère du Dieu d'amour. Et pourtant, pour comprendre l'incarnation et pour comprendre l'Église et l'unité que Jésus veut dans l'Église, il faut nous reporter à ce mystère de la Sainte Trinité. L'unité d'amour qui existe entre les personnes divines. Et le Père et le Fils, ils sont un, avant tout, je dirais, dans, par l'Esprit-Saint. Rôle de l'Esprit-Saint. Vous voyez, alors c'est ici que je voudrais tout d'abord commencer par un tout petit commentaire sur les trois noms que nous donnons au Saint-Esprit. Il semble que pendant cette fin de la semaine de l'unité, il est si important de méditer ensemble. D'abord, la troisième personne de la Sainte Trinité, nous l'appelons le Saint-Esprit. J'ai souvent dit, au fond, on ne dit pas le Saint-Père, on ne dit pas le Saint-Fils. On emploie ce mot de sainteté qu'à propos du Saint-Esprit. Vous voyez ? Et nos pauvres le saisissent très bien. Parce qu'il y a quelquefois des assistants, qui sans s'en rendre compte sont un petit peu assez intellectuels, voyez, qui au fond, en un sens, parce qu'ils ne comprennent pas très bien cette expression du Saint-Esprit, préfèrent dire l'Esprit, maintenant tout court. N'est-ce pas ? Sans se rendre compte que ça n'a pas du tout la même signification. Nos pauvres, avec leur sens, leur inspiration du cœur, ils comprennent très bien qu'il faut dire le Saint-Esprit. Et c'est beaucoup plus doux, le Saint-Esprit. C'est beaucoup plus concret pour celui qui a un sens du cœur que l'Esprit. Mais qu'est-ce que ça veut dire, le Saint-Esprit ? Tout d'abord, ça veut dire que il est l'inspiration, mais l'inspiration qui subsiste. L'inspiration qui est en un sens comme inspiration à l'origine de cette génération du Père qui engendre son Fils. À l'origine de cette parole que le Père prononce quand c'est ce Fils qui est en même temps la parole vivante, de cette lumière qui rayonne de la lumière. C'est un rayonnement d'amour. C'est très différent, un rayonnement d'amour, d'un rayonnement de pure lumière. Une lumière artificielle, elle rayonne très fort au point de vue de la lumière. Mais qu'est-ce qui leur manque ? C'est la chaleur. Le rayonnement du soleil, Au fond, au contraire, hein, il y a un rayonnement chaud. Vous voyez, le soleil de l'hiver, hein, le soleil qui brise sur le Mont Blanc en plein hiver, hein, il n'y a pas la même chaleur, hein, que le soleil de l'été. Hein. Si bien que Dieu, dans sa nature même, montre qu'il peut y avoir un rayonnement qui ne vient pas de l'amour. Le mot rayonnement n'implique pas nécessairement à l'amour. Et c'est très très sensible, regardez, dans les mouvements charismatiques même. Il peut y avoir des gens qui ont des charismes de lumière, qui ont des charismes poétiques extraordinaires, qui sont très rayonnants à ce point de vue-là. Mais qui pourtant, c'est curieux, on se dit, mais ils ne me donnent pas la présence. Mais pourtant, il y a quelque chose qui manque, en quelque sorte. Il y a au contraire des gens comme le curé d'Ars, par exemple, qui, quand on lit ses sermons, ce n'est pas tellement extraordinaire, mais qui attirait tout le monde au confessionnal. Vous voyez qu'il y avait un rayonnement d'amour, parce que qu'est-ce qu'on cherchait avant tout? On sentait qu'il était là pour donner la présence de Jésus. Vous voyez? Alors, quand nous disons le Saint-Esprit, ça montre que c'est l'inspiration sainte. Et vous voyez comme ça va très loin déjà. Vous voyez, souvent les gens viennent demander un petit peu quels sont des critères pour le discernement. Alors moi j'ai eu une inspiration très belle, très extraordinaire, oh, qui ne me quitte pas. Est-ce que ça vient de Dieu ou non? Il y a déjà le mot aspiration. Et le mot « inspiration » n'a pas tout à fait le même sens en français. Le Saint-Esprit, il procède par une inspiration. Et l'inspiration, c'est une unité d'inspiration, c'est pas une unité de compétition. C'est pas une unité de rivalité. C'est pas une unité de concurrence. Vous voyez ? L'inspiration, elle a toujours une sorte de douceur et d'humilité. Et quand, plus le bon Dieu nous approfondit un peu intérieurement, nous arrivons à discerner. Et quand il y a une idée qui nous vient, quand il y a une aspiration qui nous vient, mais nous sentons que c'est un petit peu froid. Nous sentons que c'est plus beau que bon. C'est quelque chose d'un petit peu, mais il y a un certain, je dirais, déterminisme au fond qui nous prend beaucoup trop notre imagination, prend beaucoup trop notre tête, qui ne nous laisse pas cette vraie liberté du cœur. Eh bien, il faut nous reporter, et si à ces moments-là on demande, est-ce que c'est vraiment une inspiration qui vient du Saint-Esprit, on s'aperçoit qu'elle vient beaucoup plus souvent de notre amour propre. Vous voyez, vous verrez, c'est tout à fait différent. Les inspirations qui viennent de notre amour propre, hein, sont ces inspirations où on sent très bien qu'on veut se mettre en avant. C'est pour se mettre en avant. Ou c'est pour dominer un peu les autres. Ou c'est pour le pouvoir ou pour l'avoir. L'inspiration qui vient de Dieu est beaucoup plus douce, qui est souvent moins lumineuse. Parce que la trop grande lumière, elle nie quelquefois cette inspiration, elle nie quelquefois l'intimité de l'inspiration. Il ne faut pas oublier que Jésus est venu sur la terre, au minuit de Noël. Il ne faut pas oublier que quand l'ange a parlé à Marie à l'Annonciation, vous voyez, ça n'a pas été dans une transfiguration. On ne dit pas qu'il y a eu une transfiguration. Au fond, ça a été. Le Saint-Esprit s'est bien donné à elle, en substance, mais dans une immense douceur, une sorte d'humilité. Voyez, alors, déjà nous voyons, voyez, cette unité d'amour qui unit le Père et le Fils, voyez, cette unité qui vient du Saint-Esprit. Voyez, c'est une génération qui est inspirée par le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit qui est coéternel au Père et au Fils. Le Saint-Esprit qui n'est pas un esprit très vague, mais une inspiration substantielle. Il est une personne. Il dit, mais c'est une personne qui est inspiration. Une personne qui a toute la souplesse, qui a toute la douceur, qui a toute l'humilité de l'inspiration. Mais qui en même temps a cette force de la personne, à la stabilité de la personne. Il dit, alors, ça peut nous aider déjà beaucoup. Et dans nos vies, il est déjà tellement important d'avoir discerné dès le début les aspirations qui, sans qu'on s'en rende compte. Vous voyez, c'est très curieux, vous savez, mais la haine, au fond, est à l'origine de certaines aspirations. Je dirais mauvaise inspiration. Quelqu'un qui est indifférent, il n'a pas d'inspiration. Mais au fond, on s'aperçoit très bien, quelqu'un qui a de l'opposition très nette, et quelquefois il vous dira des paroles, enfin, au fond, qui vous touche, qui vous blesse, parce qu'il attend quelque chose. Vous voyez, au fond, c'est, on voit bien les grands artistes. Bon, un Dante, je sais pas, c'était Préau qui me disait, au fond, Dante, il avait une colère, une haine vis-à-vis d'un certain nombre de cardinaux, les mettait tous en enfer, ceux-là. Dans sa Divine Comédie, vous dites, ça lui. Bon, c'est très différent de l'Angelico, qui n'avait pas du tout la même. Il savait faire un ciel splendide, mais il ne dessinait pas très bien l'enfer. Alors, c'est important déjà, vous voyez, cette unité d'amour, c'est d'abord une unité d'une inspiration. Une inspiration qui vient du cœur. Et l'inspiration qui vient du cœur, c'est sur le cœur qui domine, sur l'imagination. Et comment est-ce qu'on découvre? Est-ce que c'est bien le cœur qui domine sur l'imagination? Est-ce que c'est une inspiration où, au fond, finalement, c'est un peu notre imagination, et à travers notre imagination, on va un petit peu dominer la curiosité, le désir pour pouvoir nous représenter nettement quelque chose, et au fond, par la connaissance, en quelque sorte, de pouvoir nous imposer, qui pourra peut-être admettre d'autres, mais un peu comme des concurrents qui pourront nous aider. Vous voyez, ou bien est-ce que c'est vraiment une inspiration où c'est le cœur qui a le dernier mot. C'est pas l'agressivité qui a le dernier mot. Vous voyez, c'est tellement doux dans notre propre vie. Vous voyez, de découvrir que le Saint-Esprit, quand Jésus nous l'a donné, il l'a donné comme défenseur, comme avocat. Il l'a donné comme consolateur. Il ne l'a pas donné comme un juge. Oui. Le Saint-Esprit, quand il intervient comme Esprit Saint en nous, n'est jamais pour donner une loi rigide. Et c'est pour ça que tous les saints, quand il s'agit des révélations privées, même quand elles sont trop précises, quand elles sont trop distinctes, quand le projet est trop... Tout de suite, est-ce que ça vient vraiment de Dieu? Vous voyez, et la raison très profonde, c'est que Dieu est tellement miséricordieux vis-à-vis de nous. Que Dieu, dans sa miséricorde immense, ça c'est très difficile pour nous de le comprendre. Il sait comme changer la réalisation de ses projets, il prend d'autres moyens. Vous voyez, comme pour se couler dans notre misère, comme pour se couler dans notre faiblesse. Il y a comme, c'est pour ça que Dieu ne nous montre jamais d'une façon tout à fait précise, au fond, ce qu'il veut faire. Il donne une indication. Parce que, suivant dans la réalisation elle-même, il se trouve en face de quelqu'un qui, au fond, c'est la bonne volonté qui domine, mais qui est faible. Au fond, mais qui est... Bon, Dieu, dans son humilité divine, en quelque sorte, il va savoir ce... Le Saint-Esprit est tellement souple, il sera comme, au fond, dans son inspiration même, se plier, en quelque sorte. L'Esprit, le Saint-Esprit, c'est jamais l'esprit de géométrie. C'est toujours un esprit de finesse, mais un esprit de finesse, pas d'esprit, mais d'amour. Qui est beaucoup plus simple, mais qui va beaucoup plus loin. Le premier nom qu'on donne au Saint-Esprit, vous voyez donc, c'est l'Esprit Saint. Et vous voyez combien, quand nous l'invoquons comme l'Esprit Saint, lui demander qu'il nous apprenne, justement, à discerner son action comme inspiration. Et de voir que dans les événements, dans l'univers, vous voyez, au fond, c'est cette manière qui se manifeste à nous. Hein, vous vous rappelez comment Élie, hein, quand il y a l'ouragan, il dit, mais c'est pas là que Dieu qui se présente. Et puis il y a la petite brise légère, c'est l'esprit de Dieu. Le bon Dieu peut quelquefois nous ébranler très fort, mais on s'aperçoit que, enfin, même dans l'ébranlement très fort de Dieu, si nous savons être très très fidèles au bon Dieu, nous apercevons qu'il ne nous ébranle que dans la mesure où c'est nécessaire. Jésus, il faut bien quelquefois, comme un chirurgien divin, pour réaliser une opération en quelque sorte, il faut de temps en temps, vous voyez, qui retranche quelque chose. Il y a quelquefois une sorte de chirurgie divine. Vous voyez, mais la plupart du temps, il agit sans blesser. Et ces blessures, elles se transforment toujours en amour. Elles s'achèvent toujours en amour. Mais il faut la patience. Il faut savoir attendre. Il faudra peut-être attendre un peu de temps. Vous voyez, mais il y aura toujours, au fond, ça, c'est quand on le cherche, c'est toujours à l'origine, ça a été l'amour, au terme, ça a été l'amour. Vous voyez, c'est toujours le signe que cette inspiration, elle vient bien de Dieu. Vous voyez comme c'est important, parce que ce mystère de la Sainte Trinité, pendant la semaine de l'unité, c'est le grand mystère dont nous avons à vivre. Vous voyez, parce que pourquoi est-ce que nous sommes si souvent maladroits pour faire l'unité, même en nous-mêmes? Parce que nous ne vivrons pas assez du mystère de la Sainte Trinité. Et notre unité, c'est une unité un petit peu toujours une hiérarchie. On croit qu'il faut toujours mettre un premier d'abord. On croit que si l'un est premier, on se dit l'autre ne peut pas être premier en même temps. Nous oublions que dans la Sainte Trinité, les trois personnes divines sont égales. Bon, c'est vrai, quand nous l'énumérons, c'est le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Mais quand nous voulons tâcher de voir comment cette génération, ce n'est pas une génération de nature, comment ce n'est pas une génération uniquement intellectuelle, comment c'est vraiment le Dieu d'amour. Et voyons, bah oui, mais le Saint-Esprit, il faut qu'il soit co-éternel avec le Père et le Fils. Et c'est là, alors que la foi vient nous appuyer, et dire, mais vous n'avez rien compris à la Sainte Trinité tant que vous pensez que vous pouvez concevoir une personne sans les deux autres. Elles sont inséparables les unes des autres. Vous voyez? Et ça, c'est le grand mystère de la Sainte Trinité. Et vous voyez que pendant cette semaine de l'unité, il faut tant demander, vous voyez, au Saint-Esprit, justement, qui nous donne cet esprit de la Sainte Trinité. Vous voyez, sur la terre, le philosophe, quand il tâche de voir comment les choses se distinguent, elles sont, c'est pas le principe de contradiction ou de contrariété. Vous voyez, les espèces sont contraires les unes aux autres. Vous voyez, dans le mystère de la Sainte Trinité, c'est une relation, et c'est une relation qui existe par l'amour. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint, ils sont trois personnes différentes. Justement, son altérité. Mais si c'est le Saint-Esprit qui me fait découvrir, le fait découvrir au point de vue de l'amour, il est proche de moi. Et Saint-Esprit me fait découvrir comment il est proche de moi. Bon, comment c'est mon prochain. Vous voyez, c'est un très grand mystère, cela. Vous voyez, et nous avons très fort besoin, je dirais, à notre époque, vous voyez, de le vivre, parce que, au fond, c'est... Nous sommes toujours tendus, parce que c'est toujours l'intelligence qu'on met d'abord, vous voyez, avoir les choses au point de vue. Vous voyez, et ça, c'est le grand mystère. Je me rappelle quand j'étais jeune, tout jeune étudiant, ce qui m'avait le plus frappé dans la Sainte Trinité, ben, c'était ces relations que saint Thomas disait, ce sont des relations qui sont subsistantes, vous voyez, et ces relations qui existent uniquement par amour. C'est en s'aimant que ces personnes se distinguent l'une de l'autre. Hein, mais en même temps qu'elles s'unissent. Hein, c'est union et distinction vont de pair. Vous voyez, ça, c'est l'idéal de toute communauté chrétienne. Hein, vous voyez, c'est que on reconnaisse les personnes et puis que la communauté aide les personnes, aide chacune personne. Hein? Mais dans toutes les communautés chrétiennes, il sera nécessairement une complémentarité. Hein? Dans la Sainte Trinité, on ne peut pas dire que c'est une complémentarité. Mais on va voir tout de suite pourquoi. Hein? Le second nom que nous donnons au Saint-Esprit, hein? Oui, nous disons que c'est l'Esprit Saint. Je ne sais pas si vous aviez déjà pensé à tout ce qui est contenu dans ce mot, l'Esprit Saint. Vous voyez? Et au fond, comment déjà ça montre, vous voyez que quand vous placez au plan de l'esprit, hein, il faut tout de suite faire attention, est-ce que c'est un esprit, bon, qui vient au fond, qui est finalisé par la raison, hein, ou est-ce que c'est un esprit qui est finalisé par le cœur, hein, parce que le mot esprit en français, ça, tout à fait les deux sens. Il y a les deux sens. Il y a des gens qui sont très spirituels, mais qui n'ont pas beaucoup de cœur. Ils sont très subtils, ils sont très artistes. Ils savent très bien faire les ils sont un peu byzantins, vous voyez, leur distinction. Vous voyez, mais en fait, ce n'est pas le cœur qui, au fond, qui est à l'origine, vous voyez, de ces distinctions. Tandis que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, c'est un esprit d'amour. Second nom que saint Thomas donne au Saint-Esprit, c'est qu'il est l'amour. Vous voyez, dans le sens où, dans la Sainte Trinité, l'amour s'implique communion. Vous voyez, le Père et le Fils, ils communient dans l'amour. Le Père n'est pas au-dessus du Fils. Le Fils n'est pas, vous voyez, Jésus comme homme se fera le serviteur de son Père, mais comme Fils de Dieu, il n'est pas le serviteur de son Père. Comme Fils, vous voyez, il y a une union d'amour, une communion d'amour. Et le Saint-Esprit, il est en même temps cette communion, parce que cette génération, hein, cette diction, autrement dit, cette parole, elle est prononcée, ce discours divin, il est prononcé dans l'amour. Et non seulement il est inspiré par l'amour, mais il est accompagné, en quelque sorte, par l'amour. Vous voyez ? Et cela, si nous voulons vraiment être fidèles au Saint-Esprit, et que nous voulons que, dans cette semaine de l'unité, tâchons d'être partout des éléments d'unité, vous voyez, il faut non seulement que tu sois inspiré par l'amour, mais il faut aussi que dans notre manière d'agir, au fond, il y a tout ce mode d'amour, cette communion d'amour. Il y a un très très grand mystère. Vous voyez, parce qu'une communion d'amour, ça implique que tout en avançant, vous voyez, ce qui m'a fait peut-être le mieux comprendre ce point de vue de communion d'amour, c'est les premières fois que quand à l'hôpital de Clermont, j'allais revoir le petit Éric qui était venu à Lourdes. On avait, avec l'hospitalité de Lourdes, l'hospitalité de l'Oise, on avait amené à Lourdes. Et puis un mois après, quand j'allais le voir dans son petit pavillon, Hein? Et puis, ce petit Eric à Saint-Malin, ça n'avait pas marché. Hein? Il était moins grand que maintenant. Là, je pouvais le porter. J'étais plus fort aussi que maintenant. Bon. Je pouvais le prendre dans mes bras. N'est-ce pas? Bon. Et ce petit Eric, quand je le prenais dans mes bras, n'est-ce pas? Bon. Je sentais bien ses réactions. Je sentais qu'il fallait que je le porte avec amour. Hein? Et que, faisant attention à ses réactions, modifie. Hein? Si je prenais, puis je sentais quand il s'est rentré, je vous ai dit mal, bon, je le desserre. Si au contraire, je sentais qu'il fallait un petit peu lui donner un petit peu plus de force, je le serre davantage. Vous voyez, donc, ma manière de le porter, que je le porte avec amour, hein, et que non pas simplement que j'étais décidé pour lui montrer que je l'aimais bien, que je le porte, ça ne suffisait pas. Hein. Vous voyez, j'avais des gens de très bonne volonté, bon, qui venaient servir dans le bon, alors, mais il portait de façon tellement rigide qu'il faisait souffrir de toute façon. Il savait pouvoir le porter avec amour. Bon, c'est la même chose qu'on sent dans une conversation. Quand le Saint-Esprit est bien là, on sent qu'il ne faut pas avoir préparé d'avance tout son discours. Que suivant qu'on voit les yeux ou l'attitude de la personne en face de laquelle on se trouve, ben qu'il faut modifier. Ah, je dis, non, ce mot-là, c'est pas ça qu'il faut, il faut un autre. Vous voyez, il y a une manière de parler, d'agir dans l'amour, hein, là, depuis qu'on connaît le mystère de la Sainte Trinité, on n'en est plus étonné. Hein, et qu'on voit que la grande différence de l'art d'amour de Dieu par rapport à l'art de l'homme, c'est que l'homme, dans sa parole et un petit peu dans la musique, vous voyez, mais pas dans une musique qui est écrite d'avance, vous voyez, l'homme est capable, au fond, en quelque sorte, de modeler, mais pas dans l'art plastique, dans une statue ou dans une... Vous voyez, c'est ce qui fait que la photographie, ça peut quelquefois être très traître. Hein, vous voyez, parce que ça fixe dans une attitude. Bon, alors que peut-être que c'est que le commencement d'un élan. Hein, vous voyez, au fond. Vous voyez, le Saint-Esprit, vous voyez, il est en même temps qu'il inspire cette génération, hein, il l'accompagne, il la soutient. Il l'enveloppe. Vous voyez, et c'est pour ça que Dieu a créé un univers de avec l'air, un milieu éthéré, un milieu au fond où il y a toute une nudité, bon, que nous vivons dans ce milieu. Bon, mais ce milieu qui a été préparé par Dieu avec amour. Vous voyez, et puis, le troisième nom qu'on donne au Saint-Esprit, c'est qu'on dit qu'il est le don. Et alors, ça, ce mot « don », c'est le mot suprême pour le Saint-Esprit. Mais c'est très, très particulier. Quelquefois, on traduit par « cadeau ». Moi, j'aime pas beaucoup parce que une personne passe à une espèce de dignité. Hein, on peut donner en cadeau un objet matériel. Hein, mais au fond, une personne, c'est un don. Hein? Il faut qu'elle se donne elle-même. Hein? Au fond, il faut qu'elle se donne continuellement. Hein? Le don, et il faut que l'autre accepte ce don. Hein? Ou au contraire, on ne peut pas se donner. Hein? Si on est en face de quelqu'un qui ne veut pas, ben, on ne peut pas se donner. Non, on peut laisser encore le cadeau là, à la porte. Mais on ne peut pas. Au fond, la personne qui se donne, elle ne peut pas. Vous voyez? Et le mot « don » en même temps, ça va très très loin. Parce que vous voyez, ça montre que ce n'est pas simplement un point de vue de complémentarité. Non. Vous voyez, pour nous, ça paraît quelquefois comme le summum. On dit, dans une communauté, quand on arrive à reconnaître non, que quelqu'un qui est très différent de nous, il est peut-être complémentaire avec nous. Oh, c'est déjà un très grand progrès. Non. Avant de l'avoir vu comme un rival, d'avoir un petit peu enfin, des difficultés. Vous voyez. Mais si vous laissez le Saint-Esprit vous mener, le Saint-Esprit, ce n'est pas suffisant. Moi, je demande encore plus. voyez. Et au fond, c'est encore plus simple. Vous voyez, regardez un tout petit enfant, ben, il ne voit pas l'aspect complémentaire avec sa maman. Hein? Mais le don, c'est un type de personne qui se donne. Hein? Et s'il y en a une même qui est très supérieure à l'autre, elle se donne avec une telle humilité, avec tellement de simplicité, hein, que l'autre sent qu'elle est aussi un don. Hein? Que l'autre, et que la complémentarité. Il y a une sorte d'égalité dans l'amour, qui n'est pas du tout l'égalité de la justice, hein, mais l'égalité des personnes. Et je dirais le don, vous voyez même, bon, autrefois, pour exprimer un petit peu ce côté du Saint-Esprit comme don, je disais c'est l'aspect gratuit, hein, surabondant. Mais ce n'est pas ça non plus. Vous voyez ? Parce que quand on se fait sentir à quelqu'un comme s'il était une. On n'avait pas besoin de lui. Hein, c'est un petit peu. Oh, c'est très très gentil, mais en fait, tu n'as pas besoin que tu viennes, n'est-ce pas? C'est pas. C'est pas ça que l'amour attend. Hein, vous voyez? Alors, tout le point de vue du don, ça implique, vous voyez, que c'est nuance du Saint-Esprit. Vous voyez? Or, quand Jésus, quand il a voulu l'unité entre nous, il a dit Père, qu'il soit un. Comme vous et moi, nous sommes un. Vous voyez ? Alors vous voyez comme les chemins pour aller dans l'unité, c'est toujours partir d'une inspiration d'amour. C'est toujours agir avec amour. Et c'est tout à fait différent, comme je sais, avec amour, ou un peu une façon. Vous voyez, quand vous préparez un examen, en France, hélas, on a été tellement habitués. Vous voyez, un petit peu aux examens de concurrence, enfin, ainsi de suite. Maintenant, on est tellement habitué à une certaine concurrence qu'on a une certaine difficulté à agir tout à fait avec amour. Mais pas toujours prendre un petit peu un aspect de concurrence. Et l'intellectuel, c'est très difficile pour lui. Enfin, il y a une difficulté très particulière. Vous voyez, à pas toujours un petit peu, quand on agit avec un autre, il faut un petit peu. Vous voyez, combien que ça arrive dans le champ. J'écoute quelqu'un qui chante, enfin qui chante peut-être très bien, mais au fond qui veut un petit peu que sa voix domine les autres, ça va très bien, tous les autres peuvent être complémentaires, mais il faut que tout de même sa voix prédomine un petit peu. Hein? Ça, c'est pas avec amour. Hein? Vous voyez, si c'est vraiment avec amour, au contraire, hein, il s'arrangera pour qu'il soutienne les autres, hein, et qu'il mette les autres en lumière. Hein? Vous voyez, alors, vous voyez que rien que par ce mystère de la Sainte Trinité, les trois personnes divines et la dévotion au Saint-Esprit nous aidera énormément, vous voyez, justement, à comprendre comment doit se réaliser cette unité. Alors, c'est maintenant, après le mystère de la Sainte Trinité, nous passons tout de suite au mystère de la révélation. Et nous tâchons de comprendre, vous voyez, comment cette religion révélée, vous voyez, le catholicisme, ça représente le sommet de la religion révélée. Vous voyez, et si nous voulons, nous, comme catholiques, tâcher d'aider les orthodoxes et les musulmans, et les protestants, si vous voulez, tâcher de les aider à comprendre. Vous voyez, au fond, comment le catholicisme n'est pas un rival. Bien, il faut que nous montrions que tout ce qu'il y a de particulier dans le catholicisme, et que peut-être les orthodoxes ou les protestants ont laissé de côté, comme pensant que c'était accidentel, ça ne se trouvait pas dans l'évangile. Bon. Que c'est comme nécessaire, hein, au mystère même de la révélation. Que cette révélation étant un mystère d'amour, vous voyez, ces différents aspects sont absolument nécessaires. Vous voyez, le petit travail qu'on fait ensemble sur la papauté, moi ce que je m'efforce toujours de mettre en avant, vous voyez, c'est que la révélation, vous voyez, a besoin de la papauté. C'est pas quelque chose d'accidentel. Mais et ça rentre à l'intérieur de la révélation. Et ça, et alors, par le fait même, ça rentre à l'intérieur de la révélation, ça se point de vue d'humilité et de douceur qui ont toutes les choses qui viennent de Dieu. Alors, tâchons de voir comment la révélation s'est réalisée. Vous voyez, tout d'abord, de qui Dieu s'est servi d'abord? Et dans la révélation primitive. Il s'est servi d'Adam et Ève, comme deux frères et sœurs, et Adam comme père. On ne peut même pas dire, vous voyez, qu'il a commencé à se servir d'Adam comme d'un un maître. Vous voyez, ou qu'il s'est servi d'Adam comme un docteur. Vous voyez, la révélation, si on voit comment Dieu transmet son mystère, comment il nous fait connaître son mystère, le mode. C'est pas les relations qu'il y a un maître et un disciple. C'est pas les relations qu'il y a entre un roi, et a fortiori un empereur, et son sujet. Ce n'est même pas celle entre un prêtre, vous voyez, et ceux qui lui sont soumis. Vous voyez, Jésus, il sera bien prêtre, il sera bien roi, il sera bien docteur, mais il pourra tout de suite ajouter éternel, ou d'amour. Vous voyez, alors, nous voyons que la révélation, dès le début, elle commence avec un mode d'amour. Vous voyez, Adam, c'est comme futur père. Et avec Ève, c'est comme frère aîné par rapport à sa sœur. Et puis ensuite, quand il y aura les prophètes, vous voyez, les prophètes, bien, ils vont utiliser de symboles. Les prophètes ne se présentent pas comme des maîtres, comme tels. Vous voyez, d'où on voit que la manière dont Dieu nous donne son mystère implique toute une modalité d'amour qui est elle-même un mystère. Et qu'il n'y a que celui qui aime, mais qui sait la réciprocité de son amour, qui peut le comprendre. Et puis alors, quand Jésus viendra, bien c'est vrai, il n'y a que Jésus qui pourra nous révéler le Père. Jésus l'a bien dit, seul le Fils connaît le Père, et seul le Père connaît le Fils. Et c'est vrai qu'aucun prophète ne pourra tout seul nous révéler le mystère de la Sainte Trinité. Jean-Baptiste sera le plus grand pour désigner que c'est Jésus. Mais il ne peut pas l'annoncer avant que Jésus soit là. Il faut qu'il soit présent. Vous voyez, donc on s'aperçoit que la révélation... comme révélation d'amour, vous voyez, implique nécessairement ce mode d'amour. Alors, comme j'ai dit, je n'allais pas dépasser l'heure, j'ai plus qu'une minute. Il faut que je sois fidèle parce qu'il paraît qu'il faut qu'on chauffe là. Il ne voudrait pas qu'il y ait des gens qui s'enrhument à cause de moi. Moi, je serais manqué de charité, je ne veux pas procéder dans le point de vue d'amour. Bien. Mais quand vous voyez comment Dieu va révéler sa révélation, comment va commencer la révélation? Vous voyez, bon, c'est d'abord le Saint-Esprit qui se révèle à Marie à l'Annonciation et qui lui donne son tout petit Jésus comme un don d'amour. Et si nous voulons comprendre le mystère de l'Église comme religion révélée, il faut tout d'abord voir tout ce mystère des relations de Jésus et de Marie au plan de l'amour. Et alors, qu'est-ce qui est extraordinaire dans ce mystère d'amour de Jésus et de Marie? Vous voyez que c'est vrai. Marie, pour Marie elle-même, elle peut dire « Oh, heureuse pauvre !» Parce que bien qu'elle ait été destinée à être la dernière femme et être la reine de l'univers, l'amour infini du mal tire encore un plus grand bien. L'amour infini, quand il se manifeste sous la miséricorde, il se donne encore davantage. Et ce qu'a fait Marie. Et quand vous regardez tout le mystère de Marie, l'Annonciation et à la croix, vous voyez que c'est environné d'amour. Vous voyez, Et alors ça nous fait, nous retrouvons toutes les traces du Saint-Esprit. Mais ça nous oblige à voir que cette unité de Jésus veut, c'est une unité d'amour. Et cette unité d'amour, ça va très loin. C'est pour ça que ça m'a souvent frappé. Mais Jésus préfère qu'il soit une communauté qui extérieurement n'est peut-être pas très extraordinaire, très merveilleuse. Bon, on ne va pas la visiter comme un musée. Bon, parce que pas tellement. Mais peut-être qu'il y a deux ou trois personnes là qui sont des amis de Dieu, très intimes. Ben, Jésus préfère à une belle communauté bien organisée. Enfin, il y a la vue, il y a la tête, tout le monde. C'est admirable, ça se filme, ça. Enfin, vous voyez, ben, ça fait comprendre. Mais Jésus a voulu une église. Je dirais, Jésus a pris un risque extraordinaire en faisant son église. Mais un risque d'amour. Jésus a pris un risque extraordinaire. Bon, il a une telle confiance dans ces petits roseaux pensants que nous sommes. En voyant que dans ces petits roseaux pensants, il pouvait avoir un amour extraordinaire. Pas lui jamais à la première place. Il a voulu que l'univers soit achevé par eux, non pas par ces gens splendides, ces séraphins, ces chérubins, ces puissances, ces vertus. Enfin, ces pauvres petits hommes et femmes qui sont au fond si faibles, qui ont une nature tellement fragile. Mais l'amour peut faire un tel résultat avec ça. Alors c'est là, vous voyez, que pendant ces semaines de l'unité, il ne faut pas mépriser nos faiblesses. Il ne faut pas mépriser nos pauvres corps. Mais il faut voir comment le bon Dieu est capable d'en faire des instruments d'amour. Et alors c'est par là que nous commencerons à comprendre mieux les autres. En tâchant d'abord nous-mêmes de nous unifier, en voyant, vous voyez, ben oui, que Dieu dans sa sagesse est capable même du mal. Donc, vous voyez, c'est il a peur qu'il faut une grosse bêtise. Et il nous demande après qu'on ne soit pas dire, ah, mais est-ce que j'ai fait une bêtise, est-ce que j'ai pas fait une bêtise? Bon, ne vous occupez pas, puisque le bon Dieu s'en sert pour le bien. Ben, très bien, ben, regardez que ça, et puis c'est tout. Vous ne posez pas la question indéfiniment, est-ce que j'ai fait une bêtise, est-ce que j'ai pas fait une bêtise? Bon, ça prouve que vous êtes très attaché à vous-même. Hein, si vous êtes tout à fait détaché de vous-même, bon, vous ne posez même pas la question. Hein. Et dans nos vies, il faut savoir que très souvent, et plus on est uni au bon Dieu, il y a des actes qu'on a fait dans sa vie, on ne sait pas du tout. Mais ce qu'on est sûr, c'est que le bon Dieu en a tiré un très grand bienfait. Alors, on se dit, j'ai attiré un très grand bienfait. Vraiment, ben, mon Dieu, je te rends grâce. Je te rends grâce peut-être parce que tu as été à la fois miséricordieux pour moi, ce que tu as montré. Ben, mais moi, je ne me pose pas de questions. Mais comme les tout petits enfants, quand sa maman va le prendre, je ne sais pas trop si, au fond. Vous voyez, alors nous allons demander très fort pour finir cette semaine de l'unité. Pour que, donc, vous puissiez avoir un petit peu de chaleur avant là. Vous voyez que je fais des progrès.